L'ANPU, Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, a pour mission de coucher les villes sur le divan, détecter les névroses urbaines et proposer des solutions thérapeutiques adéquates. La NPU couche, elle recouche même Marseille sur le dit divan, puisqu'on avait pu suivre quelques précédentes consultations à l'invitation des bancs publics, mais cette fois c'est à l'invitation de lieux publics, à la Cité des Arts de la Rue, à Martigues et à Aubagne que ça se passe, maintenant et jusqu'au 27 octobre, avec des consultations, des conférences, mais aussi une expo intitulée « Youpi, yeah ». Laurent Petit, Charles Arndhoffer et Nicolas Mémin, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Charles Arndhoffer, architecte de formation, et Laurent Petit, artiste urbaniste, psychanalyste, accompagné de Nicolas Mémin, qui est, comme chacun le sait, montreur d'ours en béton ici à Marseille.
J'ai changé de métier récemment.
Alors, quelle est ta nouvelle orientation ?
Je suis street jockey.
Street jockey.
Voilà, il y a des parties, je mixe, je choisis les rues à droite, à gauche.
Et urbaniste gonzo aussi un
toujours,
petit peu.
J'ai le diplôme, oui. C'est un doctorat.
Ça, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. On pourrait commencer par cette expo Youpillé, en dire quelques mots. Youpillé, c'est l'urbanisme joyeux et revendicatif comme un pavé dans la mare que constitue l'étang moderne, dixit la NPU elle-même. Charles, qui voit-on dans cette expo?
On voit les travaux de la NPU qui ont été menés depuis 4 ans maintenant, presque 5.
Une histoire qui a commencé dans le Nord, dans le Grand Nord, à Wasem.
Ouais, à Wasem.
Wasem ou Wasem?
Wasem.
Wasem.
Et donc c'est la maison folie de Wasem qui nous a commandé cette exposition il y a un an et demi. Et il s'agissait pour nous de synthétiser les 5 ans de travaux de la NPU. Donc c'est une expo un peu pédagogique qui présente d'une part l'agence, c'est quoi l'agence, qui sait, comment ça fonctionne. Ensuite il y a une deuxième partie où on explique les outils qu'on emploie dans la psychanalyse urbaine, les outils qu'on a inventés, notre méthode.
C'est-à-dire le divan, le stylo,
par exemple,
le papier.
Ouais, ou l'opération divan qui est maintenant bien connue. On interroge les gens en les installant sur des transats et on leur pose un questionnaire chinois sur leur ville, de manière à déclencher comme ça un certain nombre de réponses qu'on souhaite le plus poétique possible.
Ça, c'est la pratique de consultation de la NPU, c'est là où vous recevez les habitants et qu'ils vous font état de leur malaise, de leur frustration, de ce qu'ils ressentent de la ville.
Voilà, l'objectif étant d'accumuler de la matière pour comprendre la ville.
Eh bien justement, on va faire un tour à la Cité des Arts de la Rue pour jeter une oreille ou les deux sur ce qui se passe sur et autour du divan.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste?
Tout à fait. Est-ce que vous souhaitez répondre du coup aux questions poétiques et imaginaires qui sont proposées dans ce questionnaire?
On va essayer.
Est-ce que vous êtes confortablement installé?
Oui.
Ça va, c'est bon. Parce que là, c'est vraiment un questionnaire qui s'ouvre sur l'imagination, sur la poésie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On est vraiment sur ce que toi, tu ressens. Prêt?
Oui.
C'est parti. Alors, et si le Grand Marseille était un fruit ou un légume pour toi, lequel serait-il?
Waouh.
Ça peut être une réponse qui est instinctive, ça peut être réfléchi, si tu as envie d'y réfléchir, c'est comme tu en as envie.
Bah, je vais dire une banane.
Une banane. Et si le Grand Marseille était un animal pour toi?
Ce serait un chacal.
Un chacal? Pourquoi ça?
Parce que c'est beau, mais en même temps, ça pue, quoi. C'est, en même temps, c'est chouette, en même temps, ça sent le vomi, en même temps, c'est beau, mais c'est crade, c'est, je sais pas, sauvage.
Bah, on l'entend, hein.
Voilà.
Tout à fait. Alors, maintenant, on va partir d'un état d'esprit que le Grand Marseille, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un que tu connais, c'est vraiment, c'est une personne à part entière. Et quel serait, à ton avis, son gros défaut à cette personne?
C'est une mytho, quoi.
Mythomane?
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'elle raconte des cracks ou...
Ouais, parce que...
Elle dit pas ce qu'elle fait. Enfin, elle fait pas ce qu'elle
non,
dit.
Non, en fait, ça serait pas mytho, non. Ça serait plus naïve. Ça serait naïve. Mais elle parle très fort. Donc elle parle très fort de choses qu'elle connaît pas et du coup, elle se trompe.
Ok. Et si, le Grand Marseille, du coup, là, on parle des on a parlé des défauts de ouais. cette personne-là. On va parler de ses qualités. Quelles seraient ses qualités?
Chaleureuse, vivante et surprenante. De ses qualités, hein. Je vais en mettre plusieurs.
Oui, bien sûr. Bah, c'est comme les défauts, hein. Si tu veux en dire plusieurs.
Non,
on
peut. Voilà.
Ok. Donc on revient sur le Grand Marseille qui est une personne, donc comme là on en parlait. Mais cette fois-ci, on va chercher à lui donner un âge, comme si c'était un être humain. Quel âge tu lui donnerais?
13 ans.
13 ans? Juste avant l'adolescence, quoi. Le moment où vraiment on veut répondre à aucun ordre.
C'est ça, ouais. Quand tu sais pas comment tu veux t'habiller. Une semaine t'es cake, une semaine t'es skater.
Quand on sait pas qui on est finalement.
Exactement.
Encore en recherche.
Ouais.
Et si le Grand Marseille était une chanson pour toi, là, un titre de chanson qui pourrait résumer Marseille, ce serait quelle chanson? Tu peux inventer le titre aussi.
Attends, un titre de chanson.
Mais tu peux l'inventer.
Ça serait ma Benz de NTM.
La planète
beaucoup...
Mars, il serait
non,
pas content.
Il y a beaucoup de gens qui sont un peu ma Benz.
Dans ma Benz.
Avec la musique bien fort.
Et du coup, si on fait le résumé d'un titre d'un film, ce Grand Marseille. Pareil, tu peux l'inventer si tu veux.
Ce serait la Gomorra.
Gomorra. Donc on va revenir sur le Grand Marseille. C'est quelqu'un que tu connais, qui a des défauts, des qualités. Et s'il avait des ennemis, lesquels ce seraient?
Les ennemis du Grand Marseille?
C'est pas forcément des villes, c'est tout ce que tu veux.
Gaudin.
Voilà. Le maire.
Ouais, ouais, le maire. Le maire de Marseille, ouais.
Vu qu'il a des ennemis, est-ce qu'il aurait des amis?
Ah ouais, carrément. Bah, y a Sangoku, déjà. Naruto.
Pourquoi?
Parce que c'est... C'est des personnages vivants qui sont un peu bêtes. Mais qui vont à fond dans le truc et qui voient la bonne chose et qui se battent pour ça, quoi. Et dans les ennemis, les Qatars aussi, en fait. Voilà.
Après ce petit son, enregistré cet après-midi du 13 octobre, ici la cité, à vous les studios.
Il y a un autre pan dans les analyses qu'on fait, les enquêtes qu'on fait, c'est aussi de rencontrer plutôt des spécialistes de la ville.
Laurent Petit.
Souvent, 4-5 jours comme ça, on a... 5, 6, 7, voire 10 rendez-vous par jour.
Des villologues
qui ont chacun leur spécialité. Et une fois qu'on a accumulé toute cette matière, on a aussi des outils pour essayer de la digérer, de la disséquer, de la comprendre, que sont par exemple la cryptolinguistique, les messages secrets cachés dans les mots, les noms des villes, la morphocartographie, avec tout un tas d'exemples dans l'exposition, où c'est un peu la même logique, mais sur les plans des villes, comment on détecte les formes secrètes qui vont révéler un inconscient, une névrose, des choses comme ça. Les arbres mytho-généalogiques, qui sont la description du parcours des villes au travers leur histoire, mythologique parce que bien souvent la naissance des villes est aussi liée à des mythes. En outils, qu'est-ce qu'on propose encore, Laurent?
Disons que ce qu'on fait après, c'est qu'on macère toutes ces informations. Notre mission, c'est de détecter les névroses de la ville et de proposer des traitements.
Donc, il y a
traitements thérapeutiques urbains, architecturaux. On a aussi des traitements catharsisiques, c'est-à-dire créer des événements fédérateurs pour à la fois guérir une névrose et ressouder la population, l'ensemble du corps social.
Alors, je ne sais pas si c'est thérapeutique ou si c'est juste jouissif et réjouissant, mais quelques-uns des objets qui sont présentés dans cette exposition Youpillé, et je vous propose par exemple de m'expliquer ce que c'est que la zobe.
Que l'on prononce zadobé, s'il vous plaît.
Alors, on en fait ce qu'on en veut. Hein.
Au montage, tu dis qu'est-ce qu'une ZOB?
Voilà, qu'est-ce qu'une ZOB? Restons politiquement corrects. Donc, qu'est-ce donc?
Alors, la ZOB, c'est la zone d'occupation bucolique que l'on propose à pas mal de villes. Et monsieur le directeur pourra vous en parler dans le détail sur le contenu de la ZOB. Mais en tout cas, c'est déjà le nom, le point de départ, c'est l'envie de terminer un urbanisme qui a été inventé dans les années 20-30. qui est le zoning, le zonage. On dort à un endroit, on va faire ses courses à un autre endroit, on va travailler encore à un autre endroit. Une ville qui est complètement fabriquée pour l'automobile. Et la ZOB est une façon de mettre un terme à l'alphabet de cet urbanisme, de manière à pouvoir redémarrer un nouvel alphabet avec peut-être un urbanisme enchanteur.
C'est ça, monsieur le directeur ?
Oui, cette notion, cette idée de jouer avec les sigles. Donc ZOB aussi, c'est un titre provocateur parce qu'on est tombé sur beaucoup de villes mortes. Et l'idée, c'est de leur redonner vie, les refertiliser avec un concept de ZOB qui permettrait de recréer du lien social par toutes sortes de propositions liées à la vie économique, aussi liées à la fin de la civilisation industrielle, la fin de la civilisation automobile. Et donc un processus de recréation de nouvelles activités en prenant comme postulat, c'est comment on va dire, donnez-moi un mot.
Il faut qu'ils aient envie.
Non, c'est pas ça. C'est
mauvaise pioche.
Ces perspectives qui sont douloureuses pour la société. C'est-à-dire que la fin du monde industriel, c'est quelque chose de douloureux. Mais nous, on essaye d'être au-delà de la douleur, de pas se plaindre, mais trouver des propositions pour permettre à l'ensemble de la société de se projeter vers l'avenir via ces propositions, de les macérer et de se projeter. On travaille sur quand même un urbaniste utopique, donc on essaye de faire rêver les gens.
Une autre proposition qui m'assert à quelque chose, c'est la AAH, l'autoroute astucieusement aménagée en habitation.
Que l'on qu'est-ce prononce aussi
ah. Ah, ben voilà, raté. Bon, qu'est-ce donc ?
Ben là, c'est justement, on vient de finir l'alphabet, on redémarre à la lettre A.
Ah ben voilà, tout simplement, hein, c'est effectivement un cycle, on est reparti au départ. Comment tirer parti des autoroutes pour les transformer en zones d'habitation ? Il y a peut-être un truc à faire à la Porte d'Aix, hein, effectivement, à Marseille comme ça,
bien sûr, ouais.
Réaménager.
Bien sûr, bien sûr. Évidemment.
L'idée c'est même de réinvestir l'ensemble du réseau autoroutier français qui fait une dizaine de milliers de kilomètres.
Soyons ambitieux.
Voilà, et la proposition c'est de transformer cette future friche, parce que le jour où on aura quitté la civilisation automobile, on va hériter d'un certain nombre de friches que seront les parkings, les autoroutes, et l'idée là c'est de fabriquer de la ville à partir de ces autoroutes en surbâtissant de part et d'autre, et on a un boulevard urbain au centre, et un rapport à la campagne, à l'extérieur.
Attention, si vous prenez la friche comme un paradigme de la modernité, vous risqueriez d'être déçu, par exemple. Nous, on en a des expériences qui ne sont pas toujours très drôles. On pourrait aussi parler du QAS, ou CAS.
QAS ? CAS ?
Le quartier autosuffisant.
Le CAS. Le CAS du site.
Alors ça, c'est un projet qu'on a détecté chez un architecte. Il est en train de le mener dans une petite ville au sud de Valenciennes, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc l'idée, c'est de recueillir la chaleur durant l'été, en la stockant dans des nappes phréatiques situées sous le sol, des cuves, et de la ressortir l'hiver venu. Et le principe, c'est qu'il fait passer cette chaleur via des serres maraîchères, et grosso modo, pour des logements sociaux de 400 habitants, il faut 5 serres maraîchères pour les alimenter en électricité et en chaleur, avec la possibilité même de diffuser de la chaleur sur les quartiers environnants. Et ça crée une économie, une vie sociale, et ça projette aussi la société vers la fin après la fin du pétrole.
Alors Nicolas Mémin, futur guide conférencier de la capitale capiteuse, ton regard sur ces projets qu'on vient d'évoquer là.
Les anglo-saxons appellent ça pédestrianisme, et c'est des gens sérieux, c'est pas des artistes, c'est des techniciens, et ils sont obligés de faire de la prospective, et ils disent, donc ils disent pas il n'y a plus de voitures, tout ça, il y aura des espèces de skateboard à moteur, enfin, un truc comme ça. Ils disent il y aura moins de voitures dans les villes, mais il y a des nouvelles formes à dessiner où on a chacun des petites maisons un peu groupées en bandes qui donnent accès à une espèce de piste cyclable avec ça. Alors, la notice Wikipédia n'a jamais été traduite, et quant aux livres, ils sont peut-être en cours de traduction, mais pas encore traduits. Et les petits ici, là, arrivent juste pour rafler la place avant.
On voit qu'on est dans le domaine d'une science expérimentale encore, hein.
Expérimental, mais qui fait que pour l'instant on n'est pas ralenti par les Anglais, on va peut-être les devancer, et eux vont devoir faire de l'urbanisme à la française.
Ils nous ont eu en 2012, on les aura en 2013. T'as raison. Parlons un petit peu de psychanalyse maintenant, parce qu'il est temps de mener ce débat vers des terres un petit peu plus sérieuses. Nouvelles opérations divan pour ce nouveau couchage de Marseille sur le divan. C'était le 5 aux Égalades, c'était le 6 à Saint-Charles, c'était aujourd'hui le 13 à la Cité des Arts de la Rue. Et il s'y passait quoi ? Ni une ni deux, on y retourne, grâce au micro de Loïs Elzière.
Maintenant, on va se positionner en tant que scientifique, parce qu'on est quand même là pour faire de la science, de la psychanalyse. Et du coup, j'aimerais savoir pour toi, quelle est la névrose profonde dont souffre ou souffrirait le Grand Marseille ?
La névrose profonde dont souffrirait le Grand Marseille.
Vraiment, qu'est-ce qui la gangrène ? Quelle est cette maladie qui pourrait la ronger ?
Bah, moi je dirais la mafia.
On revient sur cette personne qui est le Grand Marseille, des ouais. qualités, des défauts, des amis, des ennemis. Et donc, il a forcément un papa et une maman. Qui seraient les parents du Grand Marseille pour toi ?
Je pense que le papa, c'est Naples. La maman, ça serait Barcelone.
Et du coup, ben, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir pour son anniversaire ?
Ce qui pourrait lui faire plaisir, ce serait une nouvelle coupe de cheveux.
Ok. Qu'est-ce que t'entends par une nouvelle coupe de cheveux ?
Bah, qu'en fait, tous les goudrons, tous les bitumes, tous les arbres, c'est des chignons, c'est des brosses, c'est des serre-têtes.
Ouais.
Et une nouvelle coupe de cheveux, quoi.
Ok.
Repenser le truc, quoi. Ouais, c'est une métaphore, du coup.
Et oui. Et du coup, si Grand Marseille était un dicton pour toi, une expression, pareil, t'as le droit de l'inventer.
Tu pourrais résumer. Alors, ça serait une expression que je vais reprendre de Fernandel.
Pas de problème.
Ça serait. Le pastis, c'est comme les seins. Un, c'est pas assez. Et trois, c'est un de trop.
Et trois, c'est un de trop.
Ouais.
Ok. Donc maintenant, on va finir sur la dernière question. Jusqu'où le Grand Marseille est-il chez lui, pour toi ?
Jusqu'où sa limite ?
Voilà. Ouais. Où est-ce qu'on pourrait dire qu'on parle encore du Grand Marseille ?
Oh bah pour moi, c'est super minuscule, quoi. Pour moi, ça s'arrête... ça serait vraiment le centre-ville, en fait.
Le centre-ville.
Ouais. Et malheureusement, non, malheureusement, une partie des quartiers sud, tout ce qui est 8e, tout ça, les quartiers riches. Et par contre, je trouve qu'à partir de la gare Saint-Charles, après la Friche, après la Belle de Mai, je sais plus trop où on est, quoi.
Bah écoute, j'espère que tu as passé un bon moment.
Oui, c'était...
Et bah c'est le plus important, parce que moi aussi.
Non, c'était un bon moment, c'est chouette.
Est-ce que vous êtes une psychanalyste permanente de la NPU ou est-ce que vous êtes une détachée pour ce spécial Grand Pas Marseille ?
Voilà, c'est spécial Grand Pas Marseille. On connaît un petit peu le lieu public et on est des bénévoles pour le lieu public. Du coup, on a trouvé le projet très intéressant et on s'est dit qu'ils avaient besoin de bénévoles. Donc on est venus... porter la blouse et devenir des psychanalystes en herbe.
Et est-ce que, sous le grand principe de la psychanalyse, c'est-à-dire lorsqu'on est psychanalyste, il faut qu'on ait soi-même suivi une psychanalyse, est-ce que vous-même, vous êtes avant tout prêté à ce jeu-là de...
Oui, bien sûr. On a nous aussi répondu au questionnaire chacun. Après, c'était... ce qui est intéressant, ce qu'il fallait surtout, c'était pas être influencé par les réponses des autres. Vu que c'est nous qui posons les questions, c'était important que ce soit... qu'on n'ait pas eu encore les réponses des autres. Maintenant, c'est vrai qu'on connaissait le questionnaire avant aussi. Donc, ça a pu fausser. On a eu le temps de réfléchir.
Est-ce que ça vous a permis de découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas, soit sur votre pratique de Marseille, soit sur Marseille en elle-même, soit sur vous ?
Alors, surtout sur Marseille en elle-même, parce que moi, ça ne fait pas longtemps que j'habite ici. Enfin, je connais depuis toujours, mais ça ne fait pas longtemps que j'habite là. Et on découvre des facettes, oui, c'est sûr. Puis, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les gens voient la ville. Quels sont pour eux, je trouve que la question la plus pertinente, c'est vraiment le papa et la maman. Enfin, le père et la mère de Marseille, qui ils sont ? Là, c'est génial, on a des réponses
très révélateur.
Qui sont...
Quel genre de réponse ?
Il y a des villes, on a eu des dieux grecs, des fois, c'est souvent la mer Méditerranée. On a même plus l'impression que Marseille a plus une maman qu'un papa. C'est très rigolo dans les réponses. Enfin, après, moi, je ne suis pas du tout psychanalyste. C'est vraiment le travail de Laurent Petit d'analyser toutes les réponses. Et je pense que ça va donner quelque chose de très sympa, oui.
Vraiment, sur Marseille, on a découvert des choses étonnantes. Je vous les laisse découvrir, bien sûr. Ça, c'est un territoire qui nous passionne. Et
qui a plein de potentiel, même si aujourd'hui elle, c'est un territoire qui souffre beaucoup, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. En tout cas, je vous souhaite bon rétablissement.
C'était comment l'ambiance, Laurent ?
Une ambiance extrêmement détendue, des gens intéressés par le projet, parce que bon, le projet du grand pas Marseille, en mettant le pas entre parenthèses avec un point d'interrogation.
C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un pas de géant pour Marseille.
C'est un concept inventé par Nicolas Mémin, rappelons-le, quand même. Et donc, ce concept est d'actualité, puisque toutes les récentes interventions du ministre, de différents ministres, ont mis en évidence la problématique de la fédération de villes autour et avec Marseille.
Alors le grand Marseille, on voit une espèce d'écho assourdi du grand Paris comme ça, une idée de métropole, on se la pousse, on se la pète. Mais alors le pas Marseille, c'est quoi ?
C'est l'association de toutes les communes qui sont d'accord pour pas être associées avec Marseille. Et elles sont nombreuses et puissantes et riches. Et elles sont tout autour de Marseille.
Comme par exemple
Et ben qu'est-ce qu'il y a autour de Marseille ? Il y a Aubagne, il y a Aix...
La Bouilladisse...
Salon.
Cabriès, Roquefort-la-Bédoule seraient d'accord pour pas être associées avec Marseille.
D'accord. Et s'associant ensemble, elles feraient quoi ?
Elles feraient quelque chose comme la 4e ville de France. Et ce serait pas mal, ce serait assez puissant.
Et plus riche que Marseille.
Une espèce de l'île du Sud, vous voyez ?
Ah oui.
Et derrière, dont le pétrole principal sera d'exploiter le million de consommateurs appauvris qui sont hors zone Grand Pas Marseille, qui sont les Marseillais.
Eh oui, forcément. Mmh. Et eux seraient la vache à lait de finalement ce nouveau grand projet métropolitain.
Ce sera leur pétrole.
Du pétrole et des idées. Finalement, cette nouvelle exploration psychanalytique de Marseille, elle fait suite, je le disais, à des précédentes. Il y en avait une notamment qui nous avait bien intéressé. On s'était d'ailleurs croisé dans ce studio de Grenouille à cette occasion. C'était Alger-Rennes. Alors, quel lien finalement entre Alger-Rennes et puis le grand pas Marseille ? Laurent ?
Disons qu'avec Charles, là, on a réfléchi à un territoire, parce que le grand Marseille, où il peut aller jusqu'à Avignon, Metz, Barcelone, etc. Donc là, ce qu'on a, on a réfléchi à des études qu'on a menées autre part qu'à Marseille, notamment dans la Drôme et l'Ardèche. On s'est aperçu qu'il y avait là un couloir rhodanien extrêmement trépidant au niveau économique, au niveau des activités diverses, et on avait envie de lancer une dynamique de territoire sur Marseille et ses environs en rattachant l'ensemble de la région à ce couloir rhodanien, et notamment à l'Ardèche, qui aurait vraiment un terrain d'inventivité, de travail, et qui travaille, lacaniquement parlant, sur l'art de la dèche. L'art de la dèche, c'est quand même un concept qui peut intéresser Marseille, qui est une ville extrêmement endettée, vous le savez.
L'Ardèche-sur-Mer.
Il y a aussi la Drôme qui nous a intéressé, la notion de Drôme, de décollage vers une nouvelle civilisation. Donc l'idée de donner un élan en rattachant Marseille et ses territoires, et aussi en la rattachant à Alger. Pourquoi ? Parce que on s'est inspiré du concept de banane bleue, qui est un territoire urbain qui relie Londres à Gênes, en passant par la Ruhr, la Hollande, la Genève, Milan. Et en triturant cette banane, on s'est aperçu que sa forme coïncidait avec un territoire qui irait de Annonay à Alger.
La banane, je vois bien, parce qu'en plus tu fais des gestes, donc ça me permet vraiment banane de visualiser, bleue. Mais bleu.
Ça, c'est un surnom qui a été donné à cette mégapole, la mégapole européenne, qui effectivement a une forme de banane. Et alors, je ne saurais pas citer la source, mais ça a été surnommé la banane bleue.
Le bleu du drapeau européen,
tu dois savoir ça, toi.
Je ne sais pas, Alfred Sauvy, je ne sais pas qui c'est.
Mais l'idée, c'est quand même de lancer une nouvelle dynamique fédérale, transfédérale, transcontinentale et transcendantale.
Vous le faites, mais eux le font aussi. Vous êtes payé comme artiste et eux le font payé comme gens sérieux. Donc nous, c'est la banane jaune. Qui va de Rome à Séville.
Ouais, si vous prenez dans ce sens-là, mais là vous occultez Alger.
Et
il y a quand même un rapport
dessiné,
de sympathie évident entre Alger et Marseille.
Oui, mais à Marseille, il y a beaucoup de Français quand même.
Okay, oui, il y a aussi beaucoup d'Algériens d'ailleurs. Et du coup, entre les souffrances des.
C'est normal.
Entre les souffrances des Marseillais et les souffrances des Algérois, Laurent, est-ce que tu as vu des similitudes ?
Bah, évidemment, il y a un terrain commun, une sorte de déshérence. Oui.
Les deux sont pris pour des cons quand même.
Mais il y a aussi un rapport au pétrole qui peut rapprocher les deux territoires.
À Marseille, on a du pétrole ?
Non, pas Marseille, mais dans la question du Grand Pas Marseille, ah. On n'est quand même pas très loin de l'étang de Berre, de Martigues. Et dans nos réflexions sur la fin de la civilisation pétrolifère, peut-être qu'il faut associer les Ardéchois pour initier les Algériens et les Martégos à vivre un peu dans la dèche et à inventer de nouvelles choses. D'autant que les Ardéchois nous ont épatés parce qu'ils ont quand même une énorme capacité à tailler les montagnes depuis des siècles et des siècles. Et que ça peut donner plein d'idées. Alors je sais pas si on révèle le scoop ou pas, mais...
Révélons.
Il y a un projet de creusement de mer intérieure en Algérie, et donc il faudra bien que les Ardéchois expliquent un peu comment on peut faire pour...
C'est le retour de la colonie, on va expliquer aux gens comment il faut faire.
Pas du tout, ça peut se faire dans, tout à fait dans l'autre sens, évidemment.
Et l'Empire Ardéchois.
Eh oui, c'est ça.
L'Empire Ardéchois, ouais.
Le quatrième empire, on est parti. Alors je vous propose maintenant, à ce stade où on est un petit peu rentré dans le cœur du sujet, je vous propose de vous lancer quelques mots-clés, du type des mots-clés qu'on retrouve dans tous les discours d'urbanisme et d'urbanistes réunis. Et je vous les laisse un petit peu en pâture pour voir un petit peu quel écho ça fait dans vos esprits de psychanalystes urbains. Alors on pourrait par exemple commencer par celui-ci, qui moi me donne quand même assez largement de l'urticaire, c'est participation.
La participation. Ça c'est un véritable objectif de l'expo UPA. C'est aussi d'essayer de rendre la discipline architecturale et urbanistique un petit peu moins chiante. Montrer que on peut tous parler de la ville, ça peut intéresser tout le monde, et que les architectes, les urbanistes qui ont trouvé le moyen de s'inventer un vocabulaire vraiment très très fermé pour parler d'architecture entre eux, il faut que ça cesse, et donc voilà, il y a moyen. Donc le côté participatif, il passe aussi peut-être par trouver un langage commun pour qu'on puisse parler d'architecture ou d'urbanisme, ce qui est pour l'instant pas du tout le cas. Et l'objectif de UPA, c'est un peu ça, de dire finalement c'est simple de parler de la ville, venez voir l'expo et puis tout le monde peut le faire.
Laurent, sur la participation, pas mieux ?
Oui, c'est-à-dire que pour qu'il y ait de la participation, il faut un minimum de pédagogie. C'est-à-dire que si les gens veulent parler de la ville, il faut qu'ils la connaissent un peu. Et nous, on a ce souci de faire de la pédagogie.
C'est bien cool, tout ça.
Ah oui, on est très dans le consensus. On a une démarche très citoyenne. C'est ce qui fait notre force.
À moi.
Nicolas.
Donc la participation, c'est pas l'action. Participation, c'est pas construire sa maison. La participation, c'est pas construire sa maison. Et c'est comme malvoyant ou à mobilité déficiente. C'est pour ne pas dire on vous prend pour des nazes. Il n'y a pas de réelle participation. Il faut surtout pas qu'il y en ait. Parce qu'à ce moment-là, ça s'appellerait une démocratie politique. Et il faut surtout pas que ce soit le cas. Voilà. Donc les enjeux urbains sont beaucoup trop importants pour qu'on les confie au peuple, pour l'instant, apparemment. Hein, voilà. Et on nous calme avec du vocabulaire.
C'est paradoxal parce que
Laurent,
si vous regardez l'histoire des villes, elles se sont formées sans plan directeur, sans logique d'urbanisme. Souvent, ça s'est construit un peu.
Avant l'urbanisme,
ça existait. Donc il y a une capacité.
Pas tous en même temps.
Mais si, on peut disputer un peu. Il y a une capacité des gens à se prendre en charge et à réussir à avoir un projet collectif.
Donc pour faire la ville, il faut faut de l'argent, c'est-à-dire faut dégager assez de rentes pour construire des immeubles. Et il faut le faire d'une manière dégagée de l'agriculture.
Nicolas, très bien résumé la chose.
Pour faire l'autoconstruction.
Casse pas la discussion.
Pour faire la ville, il faut dégager.
Mais quel despote. C'est lui l'ennemi.
C'est moi le faire du débat. Et vous nous interrompez sans arrêt. C'est un scandale.
Alors, dans l'invention de l'urbanisme, il y a ce qu'ils appellent les plans des artistes. C'est à la fin du 18e et début du 19e. Il y avait des révolutions dans ce pays. Et les artistes ont dit que c'était à leur tour de s'occuper du plan des villes et que c'était de leur ressort que de dessiner le plan de la ville et de son agrandissement et de ses embellissements. Et donc toutes les grandes villes françaises, par exemple, ont leur plan des artistes. À Marseille, on a un plan des artistes qui doit être Napoléon Ier. Donc finalement, ça reste dans la grande tradition. Hein. Vous êtes dans la forme canonique, les mecs.
Canonique. Alors, deuxième proposition, ça va beaucoup vous plaire, ça. Coulée verte.
Et c'est bien, je suis pour un confiture. Mais c'est important parce que, vous voyez, l'écologie, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Apparemment, on comprend que c'est être très angoissé pour tout. Ça, on est d'accord. Et ça a remplacé l'économie sociale, voilà, qui est comment bien vivre ensemble et avec son environnement, sans tout casser et en prospérant. qui est une vieille science héritée du 19e siècle avec les penseurs socialistes, et qui pensait qu'on pouvait transformer notre environnement, et si on faisait des erreurs, les voir, les corriger, et continuer à essayer de bien faire ensemble. On a remplacé l'économie sociale par l'écologie, je pense que c'est la meilleure idée du siècle, l'écologie, mais on le fait mal, on le fait de manière populiste, et on le fait en nous vendant des idées auxquelles on... Bon voilà, t'as un cancer bio, so what quoi. Oui, il est bio, t'as un mot en plus. Bon. Et donc dans les villes, il nous faut du vert. Le vert, c'est ce qui n'est pas rouge, très important. Et ce n'est pas l'islam. Le vert, c'est ni rouge ni l'islam.
Alors, Laurent.
Donc on nous met du vert.
Si vous laissez parler, il va faire 55 minutes tout seul, hein, Nicolas, je le connais.
Non, discute.
C'est tellement agréable de
mais
l'écouter.
Mais à Marseille, on a eu la coulée douce, qui a été très, très. Qui est assez belle, quand même. Donc c'est les archis marseillais. Puis dans la grande tradition de. C'est vraiment. Je ne sais pas si c'est les archis qui nous gouvernent, mais c'est certains milieux qui sont là depuis plusieurs générations, sont réellement les gens qui prennent les décisions pour l'urbanisme. Et ils en sont à un point où ils n'ont tellement pas de pouvoir d'agir sur le réel, ils en sont à nous proposer « mets de l'huile ». Ils nous proposent « tombe la chemise », ils nous proposent « couler douce ». Tu vois ? Voilà. On est vraiment mal.
Eh ouais, c'est la cata. Marseille capitale ou Marseille capitule.
Alors, ça, plus la rénovation, le renouvellement, on ne sait pas encore, on va tous crever.
Alors, je vous en propose un autre, et celui-là, il va évidemment résonner à vos oreilles, c'est celui de Métropole. Vous savez, les grands ceci, les grands cela.
C'est très bien.
Laurent ?
Oui, c'est un jeu de famille urbaine qui a commencé dans les années 60 avec les communautés urbaines, les recombinaisons. Là, on était en pleine guerre de 68, donc une logique d'échangisme et de vie en communauté. Donc on a recomposé des familles urbaines qui pratiquaient l'échangisme de compétences, tri des déchets, gestion de l'urbanisme, de la vie économique. Donc il y a eu un élan de recomposer des familles. Et ça a pris de l'ampleur dans des endroits comme Lille, ça a beaucoup bien marché, à Rennes ça a bien marché, à la communauté urbaine de Bordeaux ça a bien marché, à Marseille ça n'a pas du tout pris, parce que Gaston Defer était hostile aux villes rouges avoisinantes, donc il n'a pas lancé la dynamique, ce qui fait que maintenant ça sent.
On peut peut-être l'assumer aussi des fois que ça marche pas, et alors à ce moment-là, pourquoi pas au milieu de notre fameuse banane là, il y aurait pas une principauté de Marseille
La principauté de Monte Cristo.
Oui. Voilà.
Est-ce que c'est une solution thérapeutique préconisée par la NPU, la principauté de Monte Cristo?
C'est encore en débat.
C'est encore en débat.
J'avais Pétropole qui était pas mal.
Pétropole.
Le rattachement de Marseille à la principauté Métropole. De Monaco aussi qui était intéressante.
Pétropole, c'est pas mal, effectivement.
Puis juste sous les mots, ça y est, ils sont le vrai faux débat, c'est le choix entre métropole et pôle métropolitain. Donc on fait un pôle pétropolitain et c'est bon, tout le monde
s'en fiche.
Et mégalopole, ça peut être bien aussi.
Je vous en propose un autre, c'est patrimoine intégré, qui est d'ailleurs un peu en voie de désintégration en ce moment, mais patrimoine intégré.
Mais ça veut dire quoi ?
Alors ça veut dire que c'est les habitants eux-mêmes qui choisissent qu'est-ce qui fait patrimoine et qu'est-ce qui fait
bien,
pas.
C'est pas bien, t'es contre ça ? Il faut taper dessus ?
Non, bah,
c'est
demande,
vraiment pas bien.
Je vous demande.
Que les habitants aient conscience de la dimension culturelle de leur juste art de vivre, je trouve que c'est pas bien, il faut taper dessus. C'est ça qu'il faut dire, David ?
Je suis pas en train de te dicter ce que tu dois dire, Nicolas. Je te pose une question.
Je comprends pas pourquoi tu me demandes de dire ça.
D'abord, c'est pas à toi que je le demande, c'est à Laurent.
On a des beaux exemples de patrimoine intégré à Londres. Parce qu'il y avait vraiment une ville un peu comme Paris où on voit des concombres géants naître au milieu d'une ville un peu moyenâgeuse. Ça fait des effets de contraste. À Rome aussi, on a ça. Patrimoine intégré, un tissu architectural qui continue à vivre.
Patrimoine encastré.
Ouais, patrimoine encastré.
Incrusté.
Incrusté. Et c'est bien parce qu'on voit des mélanges, des rencontres de styles urbains intéressants.
Intéressant.
Bah, l'Angers, c'est mis sous cloche quand même du patrimoine. Quoi. C'est du moment où c'est devenu patrimoine, on n'y touche plus, mais l'armoire, elle n'est pas si grande pour ranger successivement tous les patrimoines. Mon Dieu, et le dernier là, Hénin Beaumont, qui était pas mal. On s'en est pas mal débrouillé avec les terrils qui sont maintenant classés au patrimoine. Mais si ça signifie qu'on est juste bon à se payer un voyage pour aller les regarder, je comprends pas bien. faut en faire quelque chose malgré tout, je pense.
Alors celui-là, il va vous plaire, je crois. Éco-citoyenneté.
Oui, alors je voudrais revenir sur
Nicolas.
Patrimoine intégré. Ah. Parce que j'avais pas très bien compris, en fait. Il y a tous nos clochards chantants. C'est pas du patrimoine, ça, intégré. C'est super. Tous nos teneurs de murs en survêtement, c'est pas du patrimoine intégré, ça. C'est super, pourquoi tu veux que je dise du mal du patrimoine intégré? C'est très bien, le patrimoine intégré. On a inventé un truc super. Les adolescents en survêtement qui tiennent les murs, les clochards qui chantent. C'est super.
Éco-citoyenneté.
Ah, écoutez, citoyenneté, bien sûr. Moi, je suis justement de la coulée verte. J'ai été élevé par une tante écologiste qui m'a mis le nez dans mes déchets dès le matin pour que j'apprenne à les trier, alors même que le tri n'existait pas. Donc effectivement, c'est une mode salvatrice.
C'est comme le bio, c'est l'éco. Quand tu mets ces préfixes ou suffixes à un mot, un nom commun, ça devient tout à coup un nom valable, un oubli. L'éco-citoyen est le bon citoyen. Le citoyen qui considère qu'une poubelle est une poubelle est un mauvais citoyen. Donc cette espèce de justification du bien par l'éco ou le bio, ça m'agace, moi, perso.
Et je vais vous apprendre la fin de la chose, c'est que quand vous Nicolas. Mettez vos déchets dans les poubelles papier, verre, carton, là, c'est compté à la fin. Et il y en a un qui est élu et qui nous gouverne après, vous le savez, ça.
Alors, je vous en propose encore un. Allez, quand on aime, on ne compte pas. Je vous propose Cultures Urbaines. Laurent ?
C'est une musique ?
Écoutez, les cultures urbaines, on revenait de la Cité des Arts de la rue et il y avait un graffiti avec un K et plus loin un SOS.
Ah oui.
Et ça faisait Cassos. Et j'ai trouvé ça d'une poésie brûlante et ça, j'ai bien aimé cette culture urbaine sauvage. Ça m'a bien plu.
Charles, les cultures urbaines ? Pas mieux.
Pas mieux.
Nicolas, d'habitude intarissable. La silencieux, non.
J'en suis.
Moi aussi.
Donc, pissenlit, et lente, l'herbe entre les pavés, tout ça, j'en suis.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore qui soit rigolo à commenter ? Désenclavement.
Ah, c'est très important, le désenclavement. C'est vraiment très très important.
Allons-y.
Si tu vois du désenclavement, il faut le désenclaver. Alors là, c'est vraiment très important. Donc, le désenclavement,
comment
ça permet de... Ça, eh ben, donc, l'enclavement... Pour comprendre ce que c'est que l'enclavement, si vous prenez une clé, vous la mettez dans une serrure, elle est enclavée. Vous voyez, le désenclavement, ça consiste à sortir la clé de la serrure. Donc, dès que vous avez envie de casser quelque chose, vous dites, ouais, mais ça a bloqué un trou. Là, on va recréer le trou qu'il devrait y avoir. Et tu peux démolir ce que tu veux avec ce mot-là. Personne ne sait ce que c'est. Et il y a
je me demande s'il n'y a pas un double sens à ce que tu es en train de dire.
Des meutes entières de gens surdiplômés sont prêts à dire qu'ils sont d'accord pour désenclaver sans savoir ce que ça veut dire.
Ne tape pas sur la table, s'il te plaît.
Alors, on trouvera un autre mot plus tard. Je propose extraction des molaires. Il faudra vraiment extraire cette molaire. Ça fait vraiment molaire dans le paysage. C'est une molaire sociale, il faut l'extraire.
Il y a les dents creuses, d'ailleurs.
Laurent ?
Oui, les dents creuses. Ça parle de cette logique du monde entier.
C'est-à-dire ?
Le monde entier.
Le monde entier, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre ? Dialogue des cultures, tiens.
Ça te regarde.
Là, ça me fait penser à quelqu'un qui nous a expliqué un jour que notre boulot, c'était vraiment n'importe quoi, puisque les villes ne parlaient pas. Alors, est-ce que les cultures parlent et peuvent dialoguer ?
Ou monologuer, ou discuter en groupe, va savoir. Enfin, on est beaucoup sur cette idée.
Il y a une analyse de la psychanalyse chez les muets, comment ça se passe ?
Comment ?
La psychanalyse chez les muets, vu que ça doit passer normalement par la verbalisation, comment ils font ?
Bah, ils font des signes, ils ont un langage.
Hein. Mmh. Mmh. Et donc tu dis, il y a un langage de la ville, et vous le lisez.
Alors on arrive au meilleur...
On pense que la ville peut parler, mais il faut encore apprendre son langage, effectivement.
Faisons avancer encore notre débat, on voit qu'on est sur des questions essentielles de l'urbanisme et du futur de cette ville.
Moi j'ai podotactile. Podotactile, c'est bordures de trottoir qu'on peut sentir avec le dessous des pieds. Comme ça, si vous êtes aveugle, vous savez qu'il y a une voie de circulation à traverser.
C'est
Ce n'est pas, comme beaucoup de gens le croient, antidérapant pour pas tomber.
C'est juste podotactile. On sent sous
on le
les
sent
pieds.
Avec le dessous des pieds.
On sent des pieds, voilà, c'est avec ça, on sent des pieds, c'est mieux. Alors je vous propose là deux pour terminer cette série des petits mots-clés. 2013.
Bingo.
2013,
tout va bien.
Je sais pas quoi vous dire.
Bah, 2013, c'est le grand moment de passer à la thérapie. Après avoir été diagnostiqué, le seul et unique enjeu, c'est quand même d'essayer de.
C'est-à-dire, on va avaler des pilules.
Non, on va assumer l'urbanisme enchanteur, qui sera donc. Pour en tout cas la question du Grand Pas Marseille, dévoilée fin du mois réellement. Mais voilà, l'objectif de l'ANPU, c'est pas uniquement de faire un diagnostic. Il n'y a jamais un médecin qui dit, voilà, vous avez ça, merci, au revoir.
Alors sans attendre la fin du mois, est-ce qu'on peut avoir à l'antenne de Radio Grenouille, Laurent Petit, un scoop, quelques éléments sur ce que tu vas dévoiler à la fin du mois, quelques éléments.
Préparez-vous, certains ne seront pas là l'année prochaine.
Je posais la question à Laurent.
Au niveau, au niveau du projet urbain, on a cette banane 2 hein, qu'on va revendiquer, on va essayer de la proposer aux élus. La banane 2, et puis aussi le traitement catharsisique global qui va être mis en scène par lieu public, qui est la reconstitution de la grande peste de 1720. Qui avait été un événement qui avait divisé les villes autour de Marseille, parce que la peste s'était déclenchée à la suite d'une malversation du maire de la ville de l'époque, qui avait des intérêts dans une cargaison qui devait débarquer à Marseille, mais qui était atteint de la peste. Il était au courant, mais il a truqué les papiers pour permettre le débarquement de cette cargaison, qui devait être revendue à la foire de Beaucaire. Et ça avait provoqué une épidémie de peste incroyable qui avait... atteint tous les villages alentours. C'est à ce moment-là qu'avait eu la construction des murs anti-marseillais à Aubagne. Et ça, c'est resté dans les esprits. Donc l'idée, ça serait de reconstituer cette peste. Peut-être Nicolas proposait qu'on provoque une grève des éboueurs en faisant une blague sur la CGT pendant une réunion.
Mais ça, ce serait pas très original.
Et ça provoquerait une grève qui créerait des décors naturels assez facilement. Et à ce moment-là, on pourrait mettre en scène une épidémie qui serait guérie par des aubagnais, des habitants d'Aubagne qui gèrent très bien le tri des déchets, qui ont une politique... assez intéressante au niveau du bien public.
Mais la peste, ça fait des morts. Ça veut dire que ça va décimer la population marseillaise.
Peut-être, c'est un risque. C'est un spectacle vivant, hein, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir des morts.
Ah, je vois. C'est une manière de résoudre l'épineuse question du chômage.
C'est une opération catharsisique.
Peut-être. Ouais. Peut-être, ça peut résoudre des problèmes de surpopulation. Marseille peut perdre un quart de sa population.
Mais elle perd déjà sa population.
Non, essentiellement non. Ils disent que non.
Ah bon. Mais ce qu'ils disent, il ne faut pas toujours le croire.
C'est vrai qu'en perdant la moitié de sa population, on pourrait retrouver l'ambiance de village. Qui...
Village Corse.
Village urbain.
Ça fait partie du projet de cette fameuse banane, de mieux répartir les gens sur le territoire.
Il y a de la place en Ardèche. En fait, c'est tout. C'est simplement ça. Ça n'a jamais été une ville. C'est toujours une espèce de campagne avec des villages corses.
Oui.
Et le fait qu'on croit que c'est une ville, c'est une aberration de notre part. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des problèmes. Mais si on considère que c'est un simple petit village avec un grand port qui est le premier port de Méditerranée, mais c'est un petit village, à ce moment-là, on comprend mieux le comportement, par exemple.
Voilà.
Tout simplement.
Donc on est en train de contacter Bernard Tapie pour qu'il prenne le rôle du maire de Marseille.
Ça promet. Pour terminer en beauté, et après la peste et les 300 000 morts qu'elle va déclencher à Marseille, on pourrait terminer par ça après tous ces raccords.
J'ai avec ça.
Kalachnikov.
Ah oui, bien sûr, c'est un problème. C'est la grenadinerie à Marseille, forcément, qui fait rage aujourd'hui, donc, mais qui est liée, lacaniquement parlant, à la dimension de fossé. Mmh. C'est une ville qui était une colonie phocéenne, donc qui dit fossé dit faussaire, donc culte de la transgression. Donc il a atteint son paroxysme, et là depuis 4 ans on préconise l'ouverture d'une école marseillaise de grenadinerie de proximité, ce qui permettrait de fédérer les gredins, alors contrôler la situation par des exercices, des stages et des mises en place d'un cycle de formation qui permettrait de canaliser tout ça.
Alors Laurent, Charles, on a commencé à avoir quelques éléments sur les thérapies que vous allez proposer à la fin de ce mois dans le cadre de ce grand pas Marseille, donc la reconstitution ou le retour de la grande peste dans la cité phocéenne. Peut-être d'autres éléments thérapeutiques que vous êtes encore en train de développer, de doser.
Tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte que Marseille soit un peu le centre d'autre chose que d'elle-même. Je reviens toujours à cette banane qui est composée après de tout un tas de projets. Mais non, là, c'est un tout petit peu tôt. Il faut qu'on se fasse des séquences de réunions au bureau avec monsieur le directeur.
Je viens de m'apercevoir d'un problème.
Ah.
La banlieue de la banane 2 va de Dunkerque à Tamanrasset.
En quoi c'est un problème?
Ça sent l'histoire. Ça sent le réchauffé.
L'histoire se répétera-t-elle, comme disait le grand Charles, hein, Charles, je ne sais pas, Charles Ardenfer, hein, en l'occurrence, à qui je m'adressais. D'autres solutions? Non, pour l'instant, c'est vraiment encore en travail. Hein,
c'est vraiment en gestation.
On essaie aussi de confier la responsabilité du projet à Nicolas Mémin. Qui a une vraie envergure.
Ah, mais il prend tous les projets,
politique.
Nicolas. Lui, il n'y a pas de problème. Hein. Vous lui donnez des projets, il les
c'est
prend.
C'est quelqu'un qui a du charisme, qui a aussi du cœur. Il sait prendre du recul, mais aussi être chaleureux avec son entourage. Il a une telle vision du territoire qu'il pourrait prendre la responsabilité d'être le grand-mère de cette banane 2.
Nicolas, t'es intéressé?
Et ce ne sont que mes marionnettes, elles ne disent que ce que j'ai envie de qu'elles disent, oui, ce n'est que l'élément d'une plus vaste stratégie, oui.
On sent le calcul, hein. On sent le calcul.
Grand-mère, et je te donne un deuxième indice, galette et pot de beurre.
Alors je laisse ça à vos expectatives et à vos réflexions. Tout ça pour rappeler quand même, puisqu'on arrive à la fin de cette conversation, les prochains rendez-vous ici à Marseille de la NPU. Ça va être à Aubagne, je crois, on en parlait, c'est le 24. Le 24 octobre à Aubagne, Laurent.
Oui, bien sûr.
C'est de l'autre côté du mur qu'avaient construit ces salauds d'Aubagnais pour se protéger.
Les salauds, ils ont essayé de se protéger de la peste.
Des gens qui gèrent bien, et tout d'un coup, vu d'ici...
Les Aubagnais sont les champions de France de la démocratie participative.
Oh, ouais.
Oh oui.
Mais sinon, ouais, il laisse un peu déraper, des fois, le truc. Hein.
Non, mais c'est c'est un exemple. Nous, dans la banane 2, c'est Aubagne qui devrait être la capitale administrative.
Je suis d'accord.
On voulait la seule solution, Marseille sous tutelle.
C'est s'associer à Aubagne.
Ouais. Oui.
Déplaçons Marseille à Aubagne, c'est une idée.
Marseille reste à Marseille, mais c'est à Aubagne que se prennent les décisions.
Oui, c'est vraiment important que les décisions soient prises.
Et alors, un prochain rendez-vous, c'est le 25 octobre et c'est à Martigues.
Oui, c'est la même conférence, sauf que là, on sera en terrain martégal.
C'est toujours le même discours, mais ça change juste de lieu, quoi.
Oui, on va faire 4 fois la même conférence.
T'as pas l'impression de te répéter?
Mais bien sûr.
C'est ça le boulot, en fait.
Et mais ça marche, qu'est-ce que tu veux? Fais des économies, c'est-à-dire création, tu le fais une fois, après tu répètes.
Après tu déclines.
Mais il y a quand même une guerre que Marseille qui nous est demandé de revenir 4 fois d'affilée, ou 50 fois d'affilée, ou depuis 4 ans.
Venez quand vous voulez, vous êtes à la maison.
Parce que c'est la preuve que vous êtes efficace.
Soyez les bienvenus.
Non mais en Bretagne, on y est allé 2 fois et ça suffisait.
Ils ont réglé tous les problèmes.
Tout est résolu là-bas.
Et un grand bouquet final, ça c'est le 26-27 octobre, c'est la Cité des Arts de la rue, je crois. Alors là, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est toujours la même conférence. Hein,
ah, toujours, d'accord. Oui, on passe, on repasse. Toujours la même. D'accord. Bah, rendez-vous est pris.
On s'est aperçu qu'il y avait énormément de spectateurs intéressés. On a évalué ça à 4000 personnes en tout. Donc on était obligé de faire 4 représentations.
Puis on s'est dit qu'on pouvait aider à ouvrir la Cité interdite des Arts de la rue au public et leur montrer où c'était, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air très très clair.
Vous aviez du public cet après-midi pour le divan?
On peut dire qu'il y avait facilement 15 personnes.
Ouais. Ah.
Je suis content parce que sans com, sans budget derrière, rien, je fais deux fois je fais votre double. Quoi.
Comme il est, il la pousse. Hein.
Oh là,
non, mais ça me fait plaisir, tu vois, comme quoi, je dis, des fois, pas d'argent, tu vas plus vite.
Nicolas Mémin, il se casse.
Nicolas Mémin, vous êtes vraiment dur avec nous.
Ah bah c'est les affaires culturelles, maintenant c'est comme ça, qu'est-ce que tu crois?
C'est une fausse conférence demain, hein. Dans 2 semaines, hein. C'est des fausses conférences. En fait, c'est une meute qui se monte. Hein. Voilà, donc venez, on forme des groupes là. Et puis on va tout diriger depuis Aubagne dans pas longtemps.
Alors si vous voulez...
Ce qui me fait penser qu'il y aura des ateliers aussi.
Alors,
proposé à la population, géré par Hélène Dattler, qui est notre médiatrice en chef.
Qui est architecte aussi, je crois, de formation.
Exactement.
Et que propose Hélène Dattler?
De faire des ateliers autour de la question de l'urbanisme enchanteur avec des groupes. Donc comme quoi, effectivement, la créativité participative
avec des enfants
peut-être exister.
En chantant et enchanté. Et pour encore plus d'enchantement dans ces temps désenchantés, allez faire un tour sur le site de la NPU, c'est anpu.fr. Et pour toutes les infos sur les rendez-vous de ce grand pas Marseille par la NPU à la Cité des Arts de la Rue, à Martigues, à Aubagne et ailleurs, c'est sur lieupublic.com.
Et là, il y a Levitate Me des Pixies.
C'est pas une mauvaise idée. Un truc à dire pour conclure, le dernier mot, le mot de la fin.
Ouais, non, j'ai sommeil là, mais...
Ouais, tu peux dire youpillé.
Allez, tous ensemble, tous les trois, youpillé. Faites-moi un cœur antique.
Ouais, youpillé.
Ah, oh, quel enthousiasme.
Ah ouais, youpillé. Ça marchera pas. Ah, vraiment, non, c'est quoi, c'est UPA, c'est ça?
UPIA.
Urban Psychoanalysis
International. Ouais, mais il faut dire agency. UPIA. 1, 2, 3. UPIA.
Eh ben on va en rester là. Vous écoutiez le grand Pas Marseille, une émission spéciale à l'occasion du repassage de la NPU, Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, à Marseille et son Pas Marseille, associé ou dissocié, comme on veut. Reportage de Loïs Elzière, à la technique Gilles Aliamiche, à retrouver et podcaster sur radiogrenouille.com.